Décembre 2012 et novembre 2024, la décision de l'ARCOM est devenue un enjeu politique pour la droite et l'extrême droite au nom de la liberté d'expression.
Merci beaucoup à vous, Cécile Mérieux. 7h32, Louis Dauphren, votre grand témoin ce matin est Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, auteur du dictionnaire amoureux de la géopolitique, c'est chez Fayard.
Oui, un dictionnaire amoureux d'ailleurs totalement nouveau, remanié, avec de nouvelles entrées, de nouvelles perceptions, actualisées aussi avec Donald Trump, qui change tout peut-être dans le monde tel qu'il va. Hubert Védrine aussi donne une grande part à l'histoire dans ce nouveau dictionnaire amoureux de la géopolitique, paru aux éditions Plomb. Bonjour Hubert Védrine.
Bonjour.
Au cœur du pouvoir pendant 20 ans, sous François Mitterrand, la cohabitation Jospin Chirac, consultant international passionné d'Albert Camus, dont nous avons parlé d'ailleurs cette antenne. Est-ce que vous pouvez nous dire justement ce qui justifie aujourd'hui que la géopolitique suscite un certain intérêt aujourd'hui, alors que c'est une matière qui peut paraître assez aride et inaccessible au plus grand monde ?
Ce qui justifie ce mouvement, c'est l'inquiétude. Le monde ressemble de moins en moins à ce qu'ont cru les gentils européens ces dernières décennies, donc ils cherchent des repères, des explications. Cela dit, on enseigne la géopolitique maintenant dans les lycées.
Oui,
c'est la
vrai.
Combinaison de géographie, histoire et relations internationales.
La GGSP.
Donc mécaniquement, il y a des générations qui s'y intéressent. Mais fondamentalement, c'est l'inquiétude.
Quelle est la définition
c'est
de la géopolitique ?
C'est pour ça que l'éditeur m'a demandé de reprendre entièrement le dictionnaire. Je lui ai dit, mais on l'a fait il y a 4-5 ans. Et oui, il y a tellement d'éléments nouveaux inquiétants que ça vaut le coup.
Lesquels, par exemple ?
Tout ce qui se passe, évidemment, Ukraine-Russie, tout ce qui se passe au Proche-Orient, la montée de la Chine, le fait que les Occidentaux sont... Enfin, d'ailleurs, on peut même plus dire Occidentaux avec Trump. Enfin, disons, les Européens sont minoritaires, quoi, de plus en plus. Donc tout ça est inquiétant par rapport à... aux gentils. On parlait des bisounours à propos des Européens avant. Ils vont être obligés de changer. Voilà, plein de raisons qui amènent à beaucoup de gens à essayer de comprendre mieux.
Pourquoi Emmanuel Macron est-il allé chez Donald Trump alors qu'Ursula von der Leyen aurait pu représenter l'Europe, non ?
Non, mais on est dans le domaine de la défense. L'Union Européenne n'a pas de compétences particulières, encore moins de légitimité. Donc c'est normal qu'il y ait... Évidemment, il ne peut pas faire bouger Trump, vu ce qu'est Trump... Et... Le mouvement populaire puissant qu'il a porté au pouvoir, mais il aurait eu le temps de ne pas essayer. Le Premier ministre anglais y a été aussi. Ils auraient eu le temps de ne pas essayer. Alors, je ne sais pas si ça va donner quelque chose, mais peut-être qu'ils vont se remettre dans la boucle, à faire entrer quelques arguments dans la tête de Trump et aboutir dans l'immédiat, dans l'affaire de l'Ukraine, à un cessez-le-feu dans de moins mauvaises conditions que ce que l'on peut craindre.
Comment peut-on l'entrevoir ?
Il a tout à fait raison d'y aller.
Comment peut-on l'entrevoir, ce cessez-le-feu et ce qui peut s'installer en Ukraine, Hubert Védrine ?
Alors, ce qui est évident, c'est qu'il faut voir ce que Trump a annoncé. Il fait ce qu'il dit. Il faut dépasser la sidération. La sidération des Européens me sidère, moi, depuis des semaines, c'est annoncé. Bon, donc il veut un cessez-le-feu. Il veut arrêter l'affaire d'Ukraine pour se concentrer sur l'Asie et sur la Chine. Et à ses yeux, la guerre n'aurait pas dû avoir lieu en Ukraine. C'est aussi mon avis, mais pour des raisons complètement différentes, pour des raisons Kissinger, Brzezinski, etc. Donc il va imposer un cessez-le-feu. Et la vraie question, c'est s'il dit « j'ai fait le cessez-le-feu avec Poutine et maintenant c'est à vous, Européens, d'assurer la garantie du cessez-le-feu », ça va concerner non pas l'Union Européenne, encore une fois, qui n'a pas de compétences dans ce domaine, mais les quelques pays européens qui ont des armées, il n'y en a pas beaucoup. Et au premier chef, la France et la Grande-Bretagne. Alors, est-ce qu'ils vont accepter, comme le président Macron se dit prêt à, on verra, est-ce qu'ils vont accepter d'envoyer des troupes, sous quelle forme, pour vérifier le cessez-le-feu qui sera défini comment, et qu'est-ce qui se passerait s'il était violé, le cessez-le-feu ? Donc, il y a un débat qui va avoir lieu dans les prochaines semaines sur est-ce qu'on n'a pas besoin quand même d'un minimum de garantie américaine ? Pour le moment, il n'y en a pas, mais ça peut bouger. Vous voyez, ça, c'est vraiment dans les... On est très loin du baratin abstrait sur la défense européenne. On est devant des décisions très précises qui vont devoir être prises dans les mars, avril, mais en tout cas avant le sommet de l'OTAN en juin.
Comment articulez-vous cette nécessité de garantie militaire américaine et le fait qu'Emmanuel Macron dise au Portugal que l'Europe doit refuser la vassalisation heureuse vis-à-vis des États-Unis ? Est-ce que ce n'est pas se mettre mal au moment où on en a besoin ?
Non, mais il a... Enfin, disons... C'est sa position depuis longtemps. Il voudrait que l'Europe sorte de cette situation qui est ancienne. Ce sont les Européens, après la guerre, qui ont supplié les Américains de les protéger. Ce n'est pas des alliés, c'est un protecteur. Et à leurs yeux, on n'est pas des alliés, ils en fichent des alliés. Pas besoin.
Ce ne sont pas des alliés.
C'était un protecteur. Et nous, on était des protégés. Donc Emmanuel Macron plaide depuis des années et des années pour dire que ça ne va pas durer éternellement, il faut qu'on devienne autonome. Les autres ne voulaient pas, ils n'ont jamais voulu changer. Assurer que les Européens assume la défense de l'Europe, ce serait un effort financier, politique, phénoménal, auquel les autres voulaient échapper. Bon, on est peut-être obligé d'y penser maintenant. Donc, il reprend, en fonction de l'actualité, son raisonnement des dernières années, en disant, vous voyez, on est obligé maintenant de sortir de la vassalité, avoir une relation équilibrée, très bien, un partenariat, très bien, une alliance, si c'était une nouvelle alliance, très bien. Il faut en sortir, il faut voir l'effet que ça aura sur des pays qui auront donc à décider. Premièrement, est-ce qu'on envoie des troupes pour, disons, garantir, surveiller, faire fonctionner le cessez-le-feu? Et par ailleurs, est-ce qu'on ne va pas être obligé, non pas de créer l'Europe de la défense, dont aucun d'entre eux ne veut d'ailleurs, mais le pilier européen de l'Alliance Atlantique? Ça, c'est dans les mois qui viennent. C'est un semestre vraiment historique, on abuse du terme sans arrêt. Oui. Ils sont ridicules. Mais là, c'est vraiment vrai. C'est les décisions les plus graves à prendre par les Européens depuis l'après-guerre. Or, ils doivent prendre des décisions sur la base du contraire de ce qu'ils ont vécu, dont ils ont bénéficié. Vous rappelez de ma formule sur les bisounours européens, ou bien Sigmar Gabriel, l'ancien ministre allemand, qui disait « on est des herbivores géopolitiques dans un monde de carnivores géopolitiques ». Bon, tout le monde a compris qu'on est dans une sorte de Jurassic Park, en fait, maintenant. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner.
Impensable mais vrai pour Donald Trump, c'est ce que vous dites.
Ça veut dire que ça n'a pas été pensé, que c'est tellement ahurissant sur tous les plans. Le pays qui a imposé la libération des échanges, l'américano-globalisation, c'était ça la mondialisation, qui brusquement devient en partie protectionniste, qui devient mercantiliste. On exporte au maximum, on importe au minimum. Pour la planète économique et commerciale, c'est sidérant. Deuxièmement, les méthodes de Trump, il n'y a aucun surmoi, aucune éducation, enfin c'est un euphémisme ce que je dis, une brutalité incroyable. Alors tous les gens qui croyaient dans le multilatéralisme, on va négocier pour trouver des solutions, c'était pas entièrement vrai, puisqu'à la fin c'est les plus forts qui imposent leur ligne, mais enfin, les gens croyaient. Donc il y a tout un espèce de monde de diplomatie, de gouvernement, d'institutions internationales qui est complètement sidéré. Puis le troisième point, c'est le vote populaire américain qui a demandé un coup d'arrêt au progressisme américain, qui remonte à au moins 50 ans.
Vous acquiescez cette idée?
Et qui avait pris la forme du wokisme dans les dernières années. Alors il y a toute une planète progressiste qui est très, très importante, très développée en Europe, au Canada, dans d'autres endroits, qui ne sait plus où elle est. Enfin, à commencer par le Parti démocrate américain, d'ailleurs. Qui oui, ça fait beaucoup de bouleversements, quand même, en même temps.
Hubert Védrine, est-ce que vous acquiescez à l'idée que le wokisme est une manière de contrer l'Occident de l'intérieur, c'est-à-dire de le miner par une contestation perpétuelle de son histoire?
Non, c'est pas leur but.
De ses repères.
C'est pas leur but. En pratique, c'est ça. Mais il faut lire le livre de Jean-François Bronstein, qui est très clair à ce sujet, et qui montre comment des courants honorables, qui avaient des revendications compréhensibles, souvent le féminisme, le courant LGBT, le courant écologique, le courant, on va dire, décolonial, encore ça ne veut rien dire aujourd'hui. Enfin bon, il a très bien montré comment ces courants ont été pris en main par des minorités, des leaders ultra-radicalisés, plus la théorie de la sociologue américaine Judith Butler, qui parle d'intersectionnalité des luttes, comme les communistes autrefois parlaient de la convergence des luttes entre les ouvriers et les paysans. Enfin, bon. Tout ça à partir d'ailleurs, en partie, de réflexions de philosophes français, Derrida oui. et autres, qui malheureusement ont été les derniers à avoir une influence, enfin, ce sont les derniers Français qui ont eu une influence intellectuelle aux États-Unis. Alors, c'est pas tout le wokisme, ils trouveraient le wokisme actuel effarant, bon. Mais quand même, c'est la toile de fond, ça. Donc, c'est un vrai sujet, c'est ça que combat Trump, Musk, et également le vice-président Vance.
Ce qui a parlé à Munich.
À Munich.
Qu'avez-vous pensé du discours de Munich?
Je vais étonner et choquer certains. Ça ressemble à ce que disait Solzhenitsyn à la fin.
C'est à partir de Harvard.
Oui, voilà. Quand il disait l'Occident est fichu parce qu'il a abandonné ses valeurs chrétiennes. En gros, ça doit dire quelque chose à vos auditeurs. Ça. Alors à partir de là, le monde occidental de plus en plus progressiste a mis de côté Solzhenitsyn. C'est une espèce de vieux nationaliste russe, on s'en fiche, etc. Il y a un peu de ça. Il y a deux choses. Il y a vous êtes fichu parce que vous abandonnez les valeurs. On n'a plus les mêmes valeurs. Hein, entre Américains et Européens, c'est plus les mêmes valeurs. On est des cousins issus de Germain, avec un vrai fossé. Plus le côté premier amendement, on ne peut pas empêcher la liberté d'expression, on a le droit de tout dire. Or, l'Europe s'est de plus en plus constituée ces dernières années. Vous le savez, vous êtes une radio, fait sur le plan des médias, de l'expression, les mots employés, les mots interdits, les mots obligatoires, tout le truc. Il y a tout un système que l'Amérique de Trump et Vance veut balayer. Alors évidemment, c'est sidérant, au sens propre du terme, mais il faut dépasser la sidération maintenant.
Vous déplorez la suppression de C8, Hubert Védrine?
Je pense que c'est... Il y a certainement des tas d'arguments légaux, hein. Légaux et juridiques, mais ça va creuser encore le fossé entre les élites et le grand public, par rapport à ça. Donc je pense que c'est à la fois justifié et inopportun en termes politiques. Parce que je pense que dans nos pays démocratiques modernes, il faut absolument trouver un compromis quand même, un deal entre les élites mondialistes, européistes et compagnie, droits de l'hommiste, et puis le grand public. Arrêter de traiter les gens de racistes, de fascistes, de réactionnaires et compagnie. C'est un fait. Surtout qu'il y a une grosse Amérique ultra-réactionnaire, au sens propre du terme, en réaction contre.
Bon. Il y a deux personnages, à mon avis, il n'y a
mais
pas
mon livre n'est pas un livre d'actualité politique.
Non, mais je sais bien.
On parle de Jules César dedans aussi, d'Alexandre le Grand, des traités de Vaisseli.
Profondeur historique, Choda, etc. On revient aux fondamentaux de la politique et de la géopolitique. Hubert Védrine, il y a deux noms, George Soros et Elon Musk. Est-ce qu'aujourd'hui, la géopolitique ne passe pas par des biais qui ne sont pas ceux des États?
Oh, mais il y a longtemps que c'est comme ça. D'abord, il y a les Églises, je vous rappelle, qui n'ont pas toujours
merci
été
de
des
rappeler.
États. Bon, voilà. Et puis, il y a toujours eu des ensembles commerciaux. La colonisation d'une partie du monde par les Européens avait été déclenchée par des guildes commerciales, souvent. Au début, ça a toujours existé. Au 19e, Rockefeller avait une influence beaucoup plus grande que Musk aujourd'hui. Donc, ce n'est pas entièrement nouveau. Donc, l'idée, c'est que les États, et en plus, les gens ne pouvaient pas dire ça ces dernières décennies, dans un monde marqué par le triomphe du marché. Bon, voilà. Mais c'est une question de proportion. Dans certains cas, c'est utile, c'est stimulant, c'est bénéfique. Dans d'autres cas, c'est exagéré, voire dangereux. Bon, on verra avec Musk. Mais à mon avis, dans quelques temps, je ne sais pas quand, Trump va le virer. Il va être...
Ah oui.
Je ne sais pas quand, et puis j'en sais rien. C'est une réflexion. La plaisanterie qui court chez mes amis démocrates américains, mes amis démocrates anti-woke, pas le courant woke dans le Parti démocrate, les autres, les démocrates classiques.
Combien représentent-ils?
J'en sais rien. Enfin, quand même quelque chose. Alors, la plaisanterie, c'est de dire que ce serait bien que Musk ait le temps d'éradiquer le wokisme avant que Trump l'envoie sur Mars.
Hubert Védrine, vous avez parlé tout à l'heure d'élite mondialiste.
Oui.
C'est curieux quand même comme expression, non?
Non, parce
qu'est-ce
que
ça veut dire?
Il ne faut pas dire la mondialisation, comme si ça tombait du ciel, comme ça, phénomène. Il faut parler de mondialisateur et de mondialisé. Donc, dans les mondialisateurs, il y a eu des idéologues, genre l'école de Chicago, il y a eu des penseurs économiques, et naturellement les États-Unis, puisqu'ils ont considéré que comme ils dominaient tout, ils pouvaient ouvrir les frontières des autres, et qui gagnerait? Quand ils ont mis la Chine dans l'OMC, par exemple, à l'époque de Clinton, ils disaient, oui, d'accord, elle ne remplit pas les critères de l'OMC, mais on s'en fiche parce que ça va les aider à se développer, à s'enrichir, et donc à se démocratiser. Donc, c'était la pensée des mondialisateurs démocrate américain, plus la pensée droit de l'homme, ce qui est que nous avons une sorte de mission universelle spéciale et que nous devons, autrefois on allait évangéliser, et maintenant notre mission spéciale c'est d'aller droit de l'homiser en quelque sorte. Donc c'est des courants mondialisateurs, ça. Pour ça, il ne faut jamais dire la mondialisation. Et d'autant qu'il y a eu des peuples et des pays mondialisés qui n'avaient rien demandé, même si en gros l'ouverture des échanges a quand même enrichi le monde entier, quand même.
Mais dans l'idée de mondialisme, il y a l'idée qu'il y a une élite qui veut un gouvernement mondial, etc. Vous considérez que c'est une fable, ça?
Alors, le gouvernement mondial, naturellement.
À l'image de Jacques Attali, qui prend comme modèle la FIFA, par exemple. La FIFA, qui est une institution dont toutes les décisions s'appliquent au même moment partout.
Mais ça ne correspond pas à l'état du monde. C'est intéressant, la comparaison, d'ailleurs. Albert Camus, que j'adore, après la guerre, rêvait un gouvernement mondial. Mais ce serait qui, le gouvernement mondial? Si c'est Xi Jinping, ce n'est pas génial de notre point de vue. Poutine, je vous rappelle qu'il y a quand même un chute global. C'est l'ancien tiers-monde, hein. Qui est une rhétorique anti-occidentale très agressive et hypocrite, parce qu'en fait, tous les peuples des pays du Sud voudraient vivre comme nous, mais pas sous notre coupe. Donc, il y aurait qui dans le gouvernement mondial? Il serait désigné par qui, si on prend l'exemple de la FIFA, hein? C'est quoi la réunion mondiale qui va décider ça? Aujourd'hui, ça serait Trump, évidemment. Et nous, les Européens, on est quand même minoritaires. On n'est pas tout à fait d'accord entre nous. En plus, on croyait que le temps de la politique dure était dépassé. C'était une erreur, une illusion. Donc, je pense que c'est pas du tout... comme ça n'a aucune chance d'être mis en œuvre, oublions cette menace théorique. Il faut plutôt essayer de réinventer bêtement la coopération internationale, la négociation multilatérale, essayer de réinventer la coexistence pacifique entre les différentes cultures et civilisations qui sont antagonistes. C'est déjà très très ambitieux comme objectif. Si on y arrivait, ça serait déjà bien, hein.
Vous posez une question, là j'ai un papier sur vous dans la presse, il y en a eu pas mal ces derniers temps. Comment rester maîtresse? La seule question que la France devrait se poser, comment rester maîtresse de son destin?
Ça, c'est ce que je dis quand on m'interroge sur les buts de la politique étrangère. Alors, la plupart des gens commis pensaient qu'on est dans une situation tellement inattaquable, merveilleuse, qu'on n'avait qu'à s'occuper des autres. Donc il faut essayer d'aider telle ou telle région d'Afrique à se développer, à régler une guerre civile quelque part. Donc rendre service, ça c'est la charité chrétienne qui est sympathique, c'est ma culture d'origine. Mais ça va bien si on est en pleine forme, ça va bien si on se développe bien.
Donc l'aide au développement, il faut revoir les crédits?
Non, il ne faut pas les annuler en tout cas, mais il faut les réévaluer tous. Parce que dans certains cas, d'abord, il y a beaucoup de pays du Sud qui disent « on ne demande pas d'aide, c'est fini, on veut l'accès au marché ». Alors, chez nous, les gens disent « oui, mais on ne veut pas de concurrence malhonnête ». Après, il y a des pays qui ont besoin d'aide, mais il faut s'assurer que ça sert à quelque chose. On a du mal à définir aujourd'hui en quoi l'aide au développement peut aider au développement, en fait. Parce qu'on ne sait pas très bien comment faire dans certains pays qui ont des handicaps variés. Comment on ne peut pas reproduire le développement de la Grande-Bretagne au 18e. Voyez, donc il y a un vrai sujet, mais il ne faut pas prendre de façon polémique. Bête.
Pape, il y a une entrée à Pape.
Ben oui.
Vous lisez les discours du pape François?
C'est énorme. Oui, je ne suis pas d'accord du tout avec lui sur l'immigration. Je suis tout à fait d'accord avec lui sur l'écologie. Puis après, ça dépend des sujets. Mais c'est un homme très, très, très intéressant, en fait. Enfin, Benoît XVI était un plus grand intellectuel que lui, mais en termes politiques, on va dire, le pape François est très, très intéressant. Sur l'immigration, il résonne comme un jésuite argentin qui est un pays qui s'est construit après l'élimination des premiers occupants, en gros, qui s'est fait que par l'immigration, après l'anéantissement des occupants. Ils ont encore plus éliminé que l'ont fait les États-Unis avec l'élimination des Amérindiens. Donc ça biaise un peu son propos. Et je pense qu'il devrait intégrer, mais il s'en fiche de l'Europe, à peu près autant que Trump, mais d'une autre façon, il devrait intégrer le fait que c'est normal que les populations d'Europe veuillent accueillir des tas d'immigrés dont on a besoin, mais pas n'importe comment, et pas définis par les passeurs, et etc., etc. Donc là-dessus, je ne suis pas en phase avec lui. Mais je le respecte, je l'intéresse et je lis tout ce qu'il dit.
Merci beaucoup Hubert Védrine. On doit malheureusement se quitter sur ces réflexions avec ce nouveau dictionnaire amoureux de la géopolitique paru chez Plon. Je précise, profondeur historique et des entrées remaniées au moins pour un tiers. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.
Et merci à vous. Louis Dauphren, un entretien à retrouver sur rcf.fr et radionotredame.com. La matinale continue.